Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le 90FM. Dans ce magazine spécial, nous vous proposons de réécouter les moments clés de la conférence « Quelle image des sciences dans les médias ? L'exemple du changement climatique ?» Un événement de Radio B en partenariat avec Altec, centre de culture scientifique de l'Ain. Un moment d'échange pour comprendre comment les médias traitent du sujet du changement climatique. Pour en parler, deux invités, Jean-Baptiste Verrieras, journaliste scientifique au magazine Epsilon. Ingénieur de formation, il a exercé dans le domaine scientifique avant d'être journaliste. Et Sandrine Anquetin, directrice de recherche CNRS à l'IGE de Grenoble, l'Institut des géosciences de l'environnement.
On vous propose de remettre un petit peu de contexte et on avait envie de commencer par quelques définitions.
J'ai déjà commencé, Jean-Baptiste Verrieras, pour vous demander quelle est votre définition d'une journaliste.
Un journaliste, c'est quelqu'un qui désire enquêter à la recherche d'une vérité et pour ça, il va s'appuyer sur des faits. Il va essayer de multiplier les sources pour croiser les informations, s'assurer que ces faits soient réels et ensuite essayer de partager ces faits, cette réalité avec ses lecteurs, avec ses auditeurs. Voilà une définition, je dirais, de la pratique journalistique.
Et vous, Sandrine Anquetin, quelle définition vous donneriez pour le terme de chercheur ? Et puis par la même occasion, si vous pouvez nous expliquer vos thèmes de recherche.
La mission du chercheur, c'est de renforcer les connaissances. C'est vraiment ce pourquoi, a priori, on est payé. Alors, on ne parle pas de vérité, on parle de connaissances, parce que les connaissances, elles évoluent avec le temps. Donc, à un moment donné, on a une connaissance, on se dit, c'est une forme de vérité, mais en fait, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, on se rend compte, non, que ce qu'on avait compris, c'était pas tout à fait ça. Donc, nous, notre base de travail, c'est déjà qu'est-ce que l'on connaît, qu'est-ce que l'on sait. Et donc, on regarde ce que nos collègues ont fait, donc nos collègues à l'international. Donc, c'est ce qu'on appelle un état de l'art, c'est-à-dire que sur une question donnée, on va essayer de récupérer l'ensemble des connaissances qui ont été produites par nos collègues à l'international. Et sur la base de cette connaissance, on voit ce que cette connaissance présente nous permet d'avancer dans notre problématique scientifique. Alors, moi, je suis hydroclimatologue. Donc, qu'est-ce que c'est un peu compliqué comme mot. Donc, dans hydroclimatologue, il y a le mot hydro, donc eau, climatologue, climat. Donc, je m'intéresse à la présence de l'eau dans le système climatique. Et en particulier, comment cette présence de l'eau, qui est là, hein, on a un réservoir d'eau qui ne change pas, qu'on a là depuis que la Terre est à Terre, hein, on n'a pas de puits d'eau, on n'a pas d'apport d'eau de l'extérieur. La seule chose, c'est que l'eau, elle va se transformer, elle va passer de l'état glace à l'état liquide, à l'état vapeur, et puis elle va devenir de l'état consommable, ou en tout cas propre, à l'état pollué. Donc, moi, je m'intéresse à l'évolution donc, de cette quantité d'eau dans un contexte de climat évoluant, et en particulier donc, sur deux aspects. Quoi, j'ai beaucoup travaillé sur le trop d'eau, donc, c'est-à-dire les problèmes d'inondation, et en particulier en région méditerranéenne. Et donc ça, c'est un premier sujet sur lequel j'ai travaillé. Le deuxième sujet, c'est la question du partage de l'eau, parce que l'eau sert pour des usages domestiques, hein, on ne peut vivre sans eau, mais l'eau, elle est aussi utilisée pour faire de l'énergie, elle est aussi utilisée pour manger, hein, pour l'agriculture, et donc il y a ces interrelations, comment on partage cette eau entre ces différents usages, et en particulier, je travaille en Afrique de l'Ouest sur ces questions-là. Voilà.
Alors, le prochain terme, changement climatique, et là, nous allons vous poser la question à tous les deux. Sandrine Anquetin.
Oui, alors, changement climatique, c'est un terme qui est un peu galvaudé, en fait, parce que on a l'impression que c'est nouveau, que le climat change. Or, le climat a toujours varié. Le climat a un cycle de variation de 100 000 ans, en gros, hein, c'est-à-dire avec des périodes glaciaires, interglaciaires, etc. Donc le climat a toujours évolué. Donc le changement climatique, derrière ce terme que l'on utilise un petit peu dans le grand public, en fait, c'est plutôt une anomalie de changement, quoi, c'est-à-dire quelque chose qui est exceptionnellement variant. Et donc, personnellement, je préfère utiliser le mot de dérèglement climatique, puisque, en fait, on a montré que depuis, sur les 800 000 dernières années, on avait une variation, un changement climatique qui était assez naturel, etc., qui est lié à l'orbite de la Terre dans le système solaire, hein, et que, en fait, depuis quelques centaines d'années, cette variation, qui était plus ou moins, qui était assez homogène, est en train de se dérégler. Voilà. Et donc, dans le langage courant, on appelle changement climatique ça, mais en fait, c'est un dérèglement climatique. Voilà, c'est le terme qui serait le plus approprié, quoi, je pense.
Alors, Jean-Baptiste Verrieras, quel est le terme que l'on choisit quand on fait donc ces articles à Epsilon ?
Pour parler du dérèglement climatique.
Tout à fait.
Alors, à Epsilon, à part de charte, effectivement, on va parler de dérèglement, de changement. On va accepter de parler des fois de changement climatique, parce que bien que le terme soit galvaudé, c'est un terme qui est largement admis, l'acception, je pense, commune. On a tous en tête ce que ça veut dire aujourd'hui, le changement climatique, même si c'est vrai, sémantiquement parlant, il y a cette précision qui est importante. Je sais que les confrères anglo-saxons au Guardian, qui est un grand journal, c'est Le Monde, mais encore plus gros en Angleterre et même dans le monde. C'est vraiment et eux ont décidé en 2019 de parler de crise climatique. Ils ont décidé, parce qu'ils veulent souligner aussi, à travers le mot crise, l'origine, bien sûr, humaine de ce dérèglement. C'est-à-dire que il y a eu des changements. Bien sûr, le climat a changé. La grande spécificité du changement actuel, du dérèglement, c'est que il est d'origine humaine.
Alors, juste petite précision, on a longtemps parlé de réchauffement climatique. Alors, est-ce que c'est un terme qu'il ne faut surtout pas utiliser, Sandrine Anquetin ?
Un réchauffement exceptionnel climatique, si, ça va. Non, mais à nouveau, le cycle climatique a vu des périodes de réchauffement climatique et des cycles de glaciation, donc de refroidissement climatique. Ce qu'on met derrière le mot réchauffement climatique, à nouveau, c'est le fait que le réchauffement est exceptionnel et n'est jamais observé jusqu'à là. C'est ça qu'on veut dire. Donc, alors évidemment, ça fait un peu long, réchauffement exceptionnel climatique. Quoi, je conçois que ça, dans le langage courant, ça soit un peu long. Mais l'idée est bien là. Hein, la présence de l'homme fait que, effectivement, on augmente nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on augmente l'effet de serre, qui fait qu'on augmente la température moyenne sur Terre.
Radio B. Radio B.
Alors, Sandrine Anquetin, vous êtes directrice de recherche CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Cet organisme public de recherche arrive en tête au niveau mondial pour le nombre de publications scientifiques. Bon. La publication est la dernière étape d'un travail de recherche. Quelles sont les étapes précédentes ?
Sur la question climatique, la première étape, c'est l'observation. On ne peut parler d'évolution ou de dérèglement que si on a une idée de ce qui s'est passé avant. On ne peut pas juger de ce qui se fait là sans savoir ce qui s'est fait avant. Donc l'observation prend une place extrêmement importante dans nos sciences. Donc il y a l'observation de la Terre qui se fait par des réseaux d'observation. Donc beaucoup d'entre vous connaissent les stations de Météo France, par exemple, qui mesurent l'état la température, le vent, l'humidité, tout ça. Donc tout ça répartit dans le monde. Donc ça, c'est des mesures locales. On a aussi des mesures locales qui mesurent ce qui se passe dans toute l'atmosphère. Donc on enregistre ça. Alors ce qu'il faut juste savoir, c'est que ces réseaux, ils n'existent que, en gros, on a des stations de pression continentales que depuis, en gros, 1850. Or, comme je vous l'ai dit, le dérèglement climatique, il a commencé un petit peu avant. Donc, c'est un peu compliqué. de s'appuyer juste sur ces observations qu'on a mis en place. Donc on utilise d'autres types d'observations qui sont des observations dérivées qu'on appelle des proxies. Donc ça, c'est des observations, des paléo-observations, c'est-à-dire qu'on va les regarder dans les sédiments lacustres, dans les sédiments marins, tout ce qui a été piégé par les précipitations, par les courants marins. Les types de végétaux, de la faune, etc., qui nous permet de reconstituer en fait le climat passé. Parce que ça, c'est vraiment important. Et puis, moi, je viens d'un laboratoire, quoi. Je suis dans un laboratoire donc, qui a été le laboratoire qui a extrait la carotte de glace. Alors, la carotte de glace, hein, c'est un cylindre de glace quoi, qui a été allé chercher en Antarctique. Donc la carotte de Vostok, qui est sortie en 1980, qui a permis de reconstituer le climat jusque les 400 000 dernières années. Et puis, il y a eu une autre carotte plus profonde, donc de quasiment 4 km de profondeur, qui a permis de reconstituer le climat sur les 800 000 dernières années. Donc on a ces observations, c'est absolument fondamental. C'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement dispendieux, quoi, ça demande beaucoup d'argent. Parce que ça demande de l'instrumentation, du manpower, de la patience, de l'archivage, etc., etc. Alors, il y a aussi l'observation satellitaire maintenant, qui permet d'avoir une couverture plus homogène de ce qui se passe sur Terre. Mais ça, l'observation satellitaire, en gros, elle est disponible que depuis, 1980, en gros, hein, les bonnes observations satellitaires. Voilà, donc on a cette phase d'observation, elle est absolument incontournable. Et puis il y a aussi les observations archéologiques, parce que le climat, on peut aussi reconstituer l'usage, quoi, à travers la préhistoire, comment les peuples préhistoriques en fait utilisaient l'environnement. On peut reconstituer en fait le type de végétation qu'il y avait autour d'eux, etc. Donc avoir une idée du climat de l'époque préhistorique. Et puis, donc sur cette base d'observation, ensuite, on fait ce qu'on appelle des modélisations. Donc, c'est des équations mathématiques que l'on met en forme et que l'on résout avec des ordinateurs pour déjà reconstituer le climat passé, donc voir si nos équations sont bien les bonnes et si ce qu'on fait, ce n'est pas trop idiot. Parce que, en fait, ce qui nous intéresse, c'est demain, quoi, c'est le futur. Donc il faut que ces outils mathématiques soient bien calés, soient bien vérifiés sur le climat passé. Donc c'est pour ça qu'il faut ces observations. Et une fois que c'est calé, on peut aller voir, imaginer des futurs probables ou improbables, ou on l'espère pas probables. Donc faire ce qu'on appelle des scénarios climatiques en imaginant comment on va vivre dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, etc. C'est-à-dire comment on va émettre, quelles vont être la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, comment on va s'organiser socialement pour émettre plus ou moins ou pas. Oui.
Voilà. Et c'est ça ensuite qui est
publié. Et alors, une fois qu'on a tout ça, on écrit un papier, donc effectivement une publication, et qui est relue. La publication, elle est là pour être lue par des gens qui ne nous connaissent pas, quoi. Donc qui peuvent critiquer, qui peuvent émettre des remarques, etc. Et cette publication, elle est adressée à la communauté scientifique pour faire ce que je vous ai dit au départ, cet état de l'art. On a appris ça, etc. Voilà.
C'est ce qu'on appelle la validation par les pairs.
La validation par les pairs. Et ensuite, l'étape suivante, c'est l'enseignement. Parce que c'est bien beau de publier et tout ça, mais en fait, ce qui est important, c'est d'enseigner et de dispenser ses savoirs. C'est pour ça qu'on a des enseignants-chercheurs, donc on a des gens qui font à la fois de la recherche et également de l'enseignement universitaire.
Et l'une des étapes aussi importantes, c'est du coup la diffusion de ces informations auprès du grand public. Jean-Baptiste Verrieras, vous êtes journaliste à Epsilon, un magazine mensuel de vulgarisation scientifique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer les coulisses du travail de journaliste? Comment est-ce que vous choisissez les sujets? Et puis par rapport au journalisme scientifique, vous êtes vous-même scientifique aussi avant d'être journaliste. Est-ce que ça vous apporte un traitement journalistique différent? Et enfin, est-ce que dans la manière de choisir vos interlocuteurs, comment est-ce que vous procédez voilà.
Eh bien, donc nous, on bénéficie de tout ce travail incroyable que font les chercheurs dans le monde entier, dans les labos du monde entier, qui font ce lent et précieux travail d'élaboration des connaissances scientifiques, et donc qui le consigne, donc le partage à travers ces publications scientifiques. Donc nous, notre source d'information première pour tout journaliste scientifique et pour notre rédaction, ce sont ces publications scientifiques. Donc il y a plein de journaux, tout ça est disponible maintenant en ligne, vous pouvez l'imaginer. Donc on va passer du temps à lire en fait il y a des communiqués de presse, qui viennent aussi avec les publications, etc. On va fouiller tout ça et essayer d'identifier des articles qui nous intéressent particulièrement pour plusieurs raisons. Alors nous, chez Epsilon, on est dans une approche où ce qui nous plaît, on est resté en fait un peu des grands enfants, c'est de l'émerveillement aussi face à ce que la science nous révèle du monde, de l'univers, nous surprend, déjoue nos intuitions, justement, nous révélant des comportements, des phénomènes que nous ne soupçonnions pas, aussi bien à l'échelle des étoiles, des planètes, qu'à l'échelle des écosystèmes, des animaux, des plantes. Voilà, donc on va essayer de chercher des histoires, en fait, des histoires un peu surprenantes, grâce à ces publications. Voilà. Donc ces publications, c'est sûr, elles sont souvent un peu, alors vous imaginez, elles s'adressent, comme vous l'avez dit, à des scientifiques, donc c'est un langage qui est quand même assez, on va dire, tenu. C'est un jargon scientifique, c'est très technique, et donc nous, on va essayer de comprendre déjà ce qui est dit dans l'article, et si on ne comprend pas, on va aller interroger les chercheurs. Donc généralement, les premiers chercheurs qu'on va interroger sont les chercheurs qui ont écrit l'article. Voilà. C'est les premiers interlocuteurs, et puis ensuite, on va bien sûr essayer d'enrichir notre compréhension de l'article par des chercheurs qui sont du domaine, mais qui n'ont pas participé à l'étude, de manière aussi à avoir des points de vue peut-être contradictoires, peut-être parce que certaines études sont des études un peu novatrices et nécessitent d'être dans la portée la nouveauté nécessite peut-être d'être nuancée par d'autres chercheurs du domaine. Vous savez, la science, on l'a évoqué, c'est aussi une affaire de consensus, d'élaboration d'un consensus. Donc voilà, donc on fait dialoguer ces différents chercheurs du domaine, et puis en France ou à l'étranger. Et puis une fois qu'on a interrogé tous ces chercheurs, qu'on est confiant dans la solidité et dans la beauté aussi de cette histoire de science, eh bien, on va essayer de la raconter le mieux possible. Donc, pour un magazine papier, raconter une histoire de science, c'est un travail d'équipe, je ne suis pas tout seul. Vous voyez, il y a des images, c'est tout un travail de maquette aussi, de mise en scène du récit, à travers, en mêlant du texte, des infographies, à partir aussi des figures parfois, des images qui sont publiées avec les articles. Donc on va essayer, en équipe, de mettre ça en récit et de manière à ce que cette histoire qui nous a interpellés, séduites à travers les publications scientifiques, puisse être partagée par les lecteurs.
Et votre profil de scientifique, comment est-ce que ça vous aide dans votre travail journalistique ?
Alors, dans mon cas, effectivement, c'est le fait d'avoir moi-même réalisé une thèse, connu le monde de la recherche, travaillé dans le monde de la recherche à la fois académique et puis aussi privé pendant tout presque 15 ans. C'est sûr que je connais ce monde-là de l'intérieur. Donc, je sais comment s'élabore un article, je sais comment un consensus scientifique aussi se met en place. Il y a certaines thématiques que je maîtrise un peu mieux, effectivement, que d'autres, puisque j'ai baigné dedans. Donc c'est plus facile pour moi. Le jargon scientifique m'est familier. Donc je peux plus facilement naviguer dans ces publications et plus facilement, effectivement, trier le bon grain de livret. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de journaux. Et ça a été dans le traitement, par exemple, du dérèglement climatique, au début des années 2000, il y a eu beaucoup de confrères qui n'avaient pas de formation scientifique et qui, au-delà même de formation scientifique, même pas tant une connaissance des concepts, enfin, c'est important de les comprendre, mais c'était une compréhension du mécanisme même, comment étaient élaborées ces publications, quelles sources étaient plus fiables que d'autres, parce qu'il y a des, voilà, il y a des journaux scientifiques qui sont peut-être un peu plus fiable que d'autres, parce qu'on sait que y a une qualité dans des relectures. Vous évoquiez cette relecture par les pairs. Il y a un processus de publication qui est quand même un peu meilleur que dans d'autres journaux. Voilà, donc on essaye de... Voilà, il faut savoir trier aussi le bon grain de livret. Il ne faisait pas forcément, quand on ne connaît pas, en fait, les coulisses de ce monde-là, on ne fait pas forcément attention et on peut prendre un article d'un journal... c'est un journal scientifique, ça a l'allure d'un journal scientifique, ça a le goût d'un journal scientifique, mais en fait, il y a eu notamment un phénomène ces dernières années avec l'arrivée des publications sur le web où il y a eu beaucoup de journaux qui sont créés comme ça un peu du jour au lendemain parce que derrière il y a un vrai business. Ça aussi, il faut le comprendre aussi. Les publications scientifiques, Nature, ça, c'est des groupes qui sont aussi rentables qu'Apple. Donc ça vous donne un peu l'idée, les grands éditeurs scientifiques, les grandes plateformes d'édition scientifique, c'est des chiffres d'affaires et des bénéfices en milliards, en dizaines de milliards. Donc c'est un monde qui génère de l'argent. Donc il y a eu aussi des prédateurs et des gens, des éditeurs un peu voyous et qui ont pu piéger certains confrères. Donc moi, ça m'a aidé pour savoir où se trouve une information de qualité et puis aussi savoir qu'un article ne vaut pas forcément toujours qu'un article a aussi ses zones d'ombre, ses limites et qu'il convient aussi parfois de savoir les interroger.
Alors Sandrine Anquetin, quel est votre regard sur le traitement journalistique? Est-ce que vous avez déjà été contactée par un journaliste pour parler d'une de vos publications?
Alors, de publication une fois, mais en fait, surtout, on est très souvent contacté par les journalistes dès qu'il y a des événements exceptionnels, en fait. Et de façon à essayer de justifier cet événement exceptionnel dans un contexte de dérèglement climatique. Et donc, ça, c'est des... En fait, on n'était pas très bien armés jusqu'à les récentes années, parce que nous, on ne sait pas très bien parler, en fait. Comme vous disiez, on a un jargon. La communauté scientifique, oui, elle est un petit peu... elle est un peu dans sa retenue. On ne sait pas bien parler au public, voilà. Faut le dire clairement. Et je pense que c'est ce qui a aussi fait qu'il y a eu un peu de la distance, ou en tout cas, on n'a pas forcément été très très bien compris, parce qu'on ne sait pas bien parler au public. On n'a pas les mots, on n'a pas la posture, etc. Et notamment quand on est interpellé par les journalistes. D'abord, c'est dans l'urgence, donc c'est très compliqué pour nous. Ce n'est pas une échelle de temps avec laquelle on est très à l'aise.
Ça, on en reparlera. Ouais. Le temps, justement, la gestion.
Et surtout, on n'est pas dans une réponse oui-non, quoi. Oui, est-ce que cette inondation, c'est lié au dérèglement climatique en Méditerranée? Ben, je ne sais pas trop, en fait, ça va dépendre de la donnée. Enfin bon, voilà, on a un petit peu du... Voilà, on est souvent démunis. D'abord, on nous a invités à ne pas répondre directement comme ça. Donc nos organismes ont récupéré nos noms et sur lesquels on peut nous entreprendre, quoi, nous solliciter pour avoir des rendez-vous. Et on nous a invités à prendre rendez-vous avec les journalistes. Donc déjà, sur quoi vous voulez qu'on cause? OK, d'accord, ben on se voit, on reprend rendez-vous dans un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Alors déjà, ça, souvent, ça calme un peu parce que l'inondation, c'était le jour même. Alors trois jours après, je crois que d'un point de vue journalistique, des fois, c'est plus du tout intéressant. Mais bon, néanmoins, ça, c'est notre échelle de temps. Et ensuite, on nous a invités aussi à relire les articles. Parce que parfois, il y a des, nos propos sont un peu coupés. De toute façon, c'est comme tout le monde, quoi. Je pense que je ne suis pas du tout dans la politique, mais je pense que c'est un peu pareil dans le milieu politique. On va prendre un ou quelques phrases, etc. Et sorti de son contexte, ça fait quelque chose qui nous surprend, quoi. Donc, voilà. Donc, nous, c'est essentiel de travailler avec les journalistes parce que les journalistes, justement, savent raconter les histoires, savent faire du narratif. Et ça, c'est essentiel pour toute question scientifique et en particulier ces enjeux climatiques. Donc il est évident qu'il faut être en capacité de faire un narratif qui soit audible, compréhensible par tous. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Voilà. Il faut vraiment être dans une coproduction journalistique et pas être pris comme ça voilà, du jour au lendemain. C'est extrêmement déroutant. C'est extrêmement déroutant.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio B sur le 90FM ou sur radio-b.fr. Notre magazine spécial dédié au moment clé de la conférence « Quelle image des sciences dans les médias ?» L'exemple du changement climatique, c'est tout de suite.
On va revenir à une partie historique. Sandrine Anquetin, depuis quand les scientifiques s'intéressent-ils au changement climatique ?
Ça ne fait pas forcément très longtemps. En fait, l'effet de serre, parce qu'en fait, tout commence par comprendre l'effet de serre. L'effet de serre, ça date du début du 19e siècle. C'est Joseph Fourier voilà, qui a commencé à se dire, tiens, il y a des choses qui se passent entre la température au sol et puis l'atmosphère qui est au-dessus. Et puis, la personne qui a vraiment compris le fonctionnement de l'effet de serre, c'est-à-dire la quantité de gaz... la température du sol avec la quantité de gaz au-dessus, donc c'est une chercheure américaine, j'insiste sur le E, c'est une femme, milieu du 19e siècle, qui est Madame Newton Faith, et qui, elle, a fait des expérimentations, donc a pris des cylindres et tout ça, qui a changé la composition de gaz dans le cylindre, et qui a vu qu'en fonction de la quantité de gaz qu'il y avait dans ce cylindre, eh ben, la température était différente. Donc c'est donc Joseph Fourier qui a émis l'idée, et Madame Newton qui a conceptualisé, qui a expérimenté le processus. Voilà. Donc après, il y a eu cet effet de serre. Et en gros, bon, il y a eu plusieurs expériences, début du XXe siècle, etc. Mais d'un point de vue changement climatique ou dérèglement climatique, si vous voulez, c'est en fait M. Charnay qui a fait un rapport en 79, je crois, qui a dit si on multiplie par deux la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, alors on va avoir... une augmentation de température de l'ordre de 1,5 à 5 degrés, en gros. Et là, il avait fait ça, quoi. C'était très fort, quand même, hein, parce que... enfin, je le dis parce que c'était... il avait fait ça, j'aurais tendance à dire pifométrique, plus ou moins, mais parce qu'il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et en fait, ce monsieur, il était vraiment très proche de la réalité qu'on montre maintenant, quoi, en 2021, avec les modèles, avec les observations et avec l'assurance du fait que c'est effectivement... l'activité humaine qui conduit à ce dérèglement climatique. Voilà. Et alors après, ben, le GIEC est né dans les années 80. Et puis, donc le GIEC, qui est une instance... En fait, c'était un petit groupe au départ, hein, de climatologues qui commençaient à voir des choses. Après, on était dans la controverse scientifique, ce qui était tout à fait normal, hein, à l'époque. Donc ils se sont mis ensemble pour essayer de chercher un consensus international. Après, ben, le GIEC, hein, c'est des rendez-vous tous les 5-6 ans avec des rapports qui sont publiés tous les 5-6 ans. Juste pour donner quelques idées, hein, de 2007, donc ça a commencé dans les années 80, hein,
c'est ça, hein, 88, je crois.
Ouais, bon. Et puis, donc, le changement, quoi, le dérèglement climatique est sans équivoque lié à l'activité humaine, c'est 2021, le dernier rapport. Avant, c'était peut-être. Quoi. Après, on joue sur des probables, très probablement, etc. On joue sur les mots. Quoi. Mais là, maintenant, c'est
sans aucun
doute.
De votre côté, Jean-Baptiste Verrieras, à partir de quelle époque les médias commencent à se saisir de ce problème de dérèglement climatique ?
La question climatique, elle s'est vraiment imposée. Donc, il y a eu les débuts du GIEC dans les années 88. C'est vraiment à partir des années 2000 où ça commence à occuper un peu plus les plateaux de télé. Il va y avoir un premier tournant, je pense, c'est peut-être le quatrième rapport du GIEC en même temps, sort le documentaire, vous en avez peut-être entendu parler, Une vérité qui dérange, du vice-président, oui. Ex-vice-président américain Al Gore, qui va avoir un retentissement mondial. Et à partir de là, effectivement, il y a davantage, le sujet s'invite davantage sur les plateaux. Et là, là, je dirais, le monde médiatique va être coupable un peu de sa manière de faire, en fait, qui est inspirée surtout de la contradiction dans le journalisme politique, où on va mettre il faut organiser la contradiction. Il faut organiser la contradiction. Donc, il y a des gens qui disent qu'il y a un réchauffement climatique probablement d'origine humaine, et puis d'autres qui disent que c'est n'importe quoi, qu'en fait, il n'y en a pas, qu'effectivement, il y a toujours eu des grandes oscillations climatiques de par le passé. Donc, on va organiser la plupart des médias vont mettre face à face sur les plateaux des scientifiques qui, disent, regardez, il y a des observations, maintenant on a de plus en plus d'évidence que c'est le cas, et puis d'autres qui vont... Alors souvent, en plus, malheureusement, les climato-sceptiques, comme on va les appeler, sont souvent des gens qui ne sont pas d'ailleurs des climatologues. Alors vous, en France, on a un exemple célèbre, hein, c'est Claude Allègre, géologue, très bon géologue, hein, très bon scientifique, mais géologue, pas climatologue. Mais on va donner la parole... Et ministre aussi, on va donner la parole ou à des mathématiciens ou des physiciens, mais des gens qui ne sont pas des spécialistes, par contre qui sont très à l'aise, des tribuns, des gens qui sont très à l'aise sur un plateau et qui vont sans problème couper la parole face à des scientifiques qui, eux, vont essayer peut-être moins à l'aise avec les médias et qui, du coup, vont paraître moins brillants sur le plateau. Donc, il va y avoir, hélas, cet écueil dans lequel les journalistes, les médias, pas mal de médias vont tomber et qui vont donner l'impression que, en fait, les scientifiques ne sont pas vraiment d'accord et qu'il y a deux points de vue qui se valent. En fait, c'est des opinions. Et en fait, qui vont donner, comme pour le débat politique, en fait, qui vont dire c'est des questions partisanes, en fait. Ouais. Entre ceux qui sont un peu plus sensibles, un peu plus écologistes dans l'âme, et puis ceux qui ont une fibre dure scientifique. Et en fait, c'était pas du tout ça. Même des débuts des années 2000, à peu près, fin de 2007, 2010, etc., au moment d'une vérité qui dérange, il y avait déjà un consensus mondial qui était en train de s'établir. Donc on avait quelques scientifiques qui n'étaient pas des experts du climat, qui étaient des climato-sceptiques, à qui on donnait le même poids qu'un consensus scientifique établi par des gens spécialistes de la question. Je pense qu'on a vu ressurgir ça, d'ailleurs, hélas, pendant le Covid.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a vu aussi sur les médias des scientifiques qui avaient la parole dans les grands médias, notamment les chaînes d'infos comme BFM TV, etc., et qui n'étaient pas du tout spécialistes de la question infectieuse.
Tout à fait. Alors avec cette petite spécificité que pour le Covid, on était dans un rapport au temps complètement différent, parce qu'on courait après. L'actualité scientifique, c'était vraiment... Enfin, il y a une urgence que... Alors, il y a une urgence du dérèglement climatique, mais ce n'est pas la même échelle. On parle de 2100, on ne parle pas de la semaine prochaine, quel sera l'état dans lequel seront les hôpitaux et la population. Donc c'est vrai que du coup, il y a eu des biais dans le traitement du Covid aussi, on a reproduit les mêmes erreurs, mais elles ont été quand même, peut-être en partie corrigées aussi, il y a eu aussi des choses positives dans le traitement. Il y a des concepts, je pense qu'on maîtrise tous maintenant le R0 ou l'immunité collective. Enfin, je trouve qu'il y a quand même eu aussi des ratés, mais il y a eu aussi des réussites. Et pour le climat, je dirais qu'il y a les choses ont bien changé aussi depuis ces années-là, et les médias il y a des journalistes qui sont vraiment spécialisés sur ces questions-là. On s'est rendu compte que c'était une question complexe aussi, voilà, et qui nécessitait, on y reviendra dans le rapport, mais de prendre du temps, d'avoir des gens qui comprennent bien ces questions-là, qui savent choisir les bons interlocuteurs aussi, savoir voilà, lire les articles aussi qui sont écrits sur le sujet, comprendre les rapports du GIEC, les lire, pas simplement lire les digests, enfin, ce qu'on appelle les, vraiment les résumés très très haut niveau, mais vraiment rentrer dans le détail, comprendre ces histoires de modélisation, comment se construisent ce consensus, comment se construisent les projections aussi, voilà tout ça. Et ça, ça a bien changé, et je trouve que le voilà, c'est bien sûr, rien n'est jamais parfait, mais il y a bon, un grand mieux quand même.
Radio B.
Passons maintenant donc au financement. Vous avez parlé donc justement des milliards qu'il pouvait y avoir derrière la publication donc des recherches. Sandrine Anctin, comment sont financées vos recherches ?
Alors ça va dépendre un petit peu d'où on se trouve. Donc en France, les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont fonctionnaires. Donc c'est nous, c'est vous qui nous payez déjà. Donc c'est déjà important à savoir. Hein, que c'est, on fait partie des rares pays au monde où ben, l'État prend en charge les salaires des chercheurs et des enseignants-chercheurs, donc de la recherche en général. Alors, bon, une fois qu'on a à manger, ce qui est déjà quand même essentiel, hein, parce qu'il y a dans d'autres pays du monde, nos collègues doivent aussi chercher leur salaire pour travailler. Effectivement, ensuite, on a besoin d'argent pour observer, hein, pour dire tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour observer, pour traiter l'information, pour faire de la modélisation. Donc, il y a besoin d'argent voilà, pour l'observation, pour le calcul, et ça, c'est des millions et des millions d'euros sur du long terme. Donc, l'essentiel de du financement vient du public, qu'il soit collectivité locale, la région. En France, bon, on a des programmes nationaux en France, européens, internationaux, donc beaucoup de l'argent essentiellement public. Après, il y a des fondations qui existent. Alors, à titre personnel, je ne suis pas forcément très, très à l'aise avec ces fondations parce que ce qui me semble important, en tout cas, c'est d'avoir une recherche éthique et indépendante. Et voilà, donc on va plutôt chercher des financements publics.
Jean-Baptiste Verrieras, pour vous, le financement est aussi essentiel dans le monde des médias. Vous écrivez pour le magazine Epsilon, un magazine scientifique qui se décrit comme libre, engagé et qui a besoin de ses abonnés pour assurer son indépendance. Alors, vous pourrez peut-être nous raconter un petit peu la genèse du projet Epsilon. En quoi c'est essentiel aujourd'hui d'avoir justement cette indépendance dans le monde des médias ?
C'est fondamental. C'est si on veut avoir un peu de crédibilité aux yeux des lecteurs. Voilà, on a besoin de cette, surtout une profession qui est très, très, qui souffre d'une image souvent détestable auprès du public. Mais au-delà de la question d'image, je pense que c'est une question de principe. On se doit de ne pas être inféodé à des puissances d'argent, si l'on peut, et à pouvoir librement choisir les sujets que l'on traite, et surtout à ne pas faire de mélange de genre entre publicité et sujet, information, et de pas tromper les lecteurs. Donc pour ça, nous, c'est ce qui nous a conduit, effectivement, une quinzaine de journalistes il y a un peu plus d'un an à créer ce nouveau magazine d'actualité scientifique voilà suite à un accord de désaccord avec notre ancien magazine enfin et du coup notre souhait a été de poser d'affirmer ces valeurs là notamment on l'a fait à travers alors on a besoin la presse voilà on a besoin d'argent ça reste une entreprise il faut que ça soit quand même il faut payer les journalistes on a besoin aussi de salaire on a besoin de payer le papier l'imprimeur enfin tout vous imaginez produire un magazine comme ça ça coûte quand même de l'argent Donc on a besoin des lecteurs, et si possible, on essaye d'avoir le moins possible de publicité, donc on en a très peu dans le magazine, mais il nous en faut quand même un peu, parce que c'est quand même une source d'argent, mais pour éviter justement qu'il y ait... Donc on a cette publicité, on a aussi un éditeur donc, qui a apporté, qui s'est engagé pour faire exister ce magazine, qui est l'actionnaire, on va dire, mais dans le cas d'Epsilon, on a mis en place une charte éthique signée par l'actionnaire, signée par la rédaction en chef, signée par ce qu'on appelle la Société des journalistes, qui regroupe l'ensemble des journalistes de la rédaction, pour mettre en place justement les lignes rouges, en disant l'actionnaire, voilà les droits et les devoirs de chacun au sein de la rédaction. Et par exemple, pour l'actionnaire, l'actionnaire ne peut pas franchir ces lignes rouges, auquel cas cela déclenchera une réponse de la part des rédactions dans le cadre de cette charte. Voilà. Mais voilà, il nous faut des garanties, et ce n'est pas toujours évident de les avoir actuellement. Et bien sûr, encore une fois, l'argent, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Donc on est très heureux, en ce qui nous concerne, d'être énormément soutenu par les lecteurs. Donc on compte un peu plus de 40 000 abonnés aujourd'hui, donc au bout d'un an, donc ce qui est quand même assez incroyable. On a du mal un peu à y croire. Donc on remercie chaleureusement tous les jours nos abonnés qui nous lisent et qui nous soutiennent, parce que sans eux, effectivement, cette aventure ne serait pas possible. Et... la manière dont on souhaite faire du journalisme ne serait pas possible.
On va parler du rapport au temps, dont on a beaucoup parlé un petit peu tout au long. Donc journalistes et scientifiques n'ont pas du tout le même rapport au temps, souvent du jour au lendemain, si ce n'est dans l'heure pour certains médias. Alors Sandrine Anquetin, peut-on prévoir la durée d'un travail de recherche ?
L'échelle de temps élémentaire, ça pourrait être la thèse, par exemple. Travail de thèse, dans nos disciplines, ça dure 3 ans. Voilà. Donc peut-être le minimum, c'est 3 ans. Voilà. Hein, une thèse, on part d'un état de l'art, on élabore une problématique et on répond en partie à cette problématique. Donc en 3 ans, on a fait avancer les connaissances sur un domaine donné. Donc ça, c'est le plus court. Ensuite, je vous ai mentionné les rapports du GIEC. Les rapports du GIEC, ils font un état des connaissances tous les 5-6 ans. Donc ça aussi, ça donne une autre échelle de temps. Donc le GIEC, il ne produit pas de connaissances. Le GIEC, il est là pour relire tous les travaux qui ont été faits. Donc en fait, c'est un super état de l'art, en fait. Il relise toutes les publications qui ont été faites pendant les 5-6 ans. Et ils en ressortent l'essence même, après discussion, consensus, etc. Donc en fait, c'est un résumé, en gros, de 5-6 ans de recherche. Donc ça, c'est une autre échelle de temps, parce que tous les 3 ans, les thèses, aussi importantes soient-elles, hein, c'est des travaux conséquents, ça fait avancer par petits pas dans la problématique. Hein, Donc ça, ce sont des échelles de temps minimalistes, je dirais, pour le travail de recherche. Alors évidemment, qui est assez différent de celui de la presse, aussi assez différent des mandats électoraux, parce que c'est aussi ça qui nous gère. Donc ça paraît effectivement très long, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est finalement assez court par rapport à nos vies.
De votre côté, Jean-Baptiste Verrieras, que pouvez-vous dire du rapport du temps qu'ont les journalistes, et peut-être suivant les journalistes aussi, puisqu'on imagine qu'entre la télé, la radio, la presse écrite, ça n'a rien à voir. Et comment vous, en tant que journaliste scientifique, vous vous confrontez aussi à ce décalage de rapport au temps avec les scientifiques ?
Alors oui, effectivement, c'est important de préciser, comme vous le faites, qu'il y a différentes façon de traiter l'information et différentes temporalités, différents rythmes médiatiques. Nous, en fait, on a une horloge pour Epsilon. Notre horloge, c'est le mois. Voilà, on a un rendu, une date à partir de laquelle ça sera terminé. On envoie tout à l'imprimeur. Donc, il faut que ça soit les articles soient rédigés. Et ce qui n'empêche pas d'avoir différents rythmes d'enquête. Il y a des enquêtes qu'on va pouvoir mener très rapidement. Par exemple, la dernière dernier article que j'ai rédigé sur l'éruption impressionnante au Tonga. Cet article-là, typiquement, on s'est mis d'accord sur le sujet. Voilà, j'ai interrogé des chercheurs. C'est en 2 semaines. Voilà, l'article va être rédigé. Et puis, par exemple, le mois d'avant, j'ai rédigé un dossier sur des éléments un peu particuliers qui occupent la moitié de notre ADN, de nos chromosomes, qui s'appellent les transposons. Et par exemple, ça, c'est un dossier au long cours.
Voilà. Mais là, on parle de 2 temps différents quand même. Hein. Parce qu'on est dans le temps... Moi, je parlais de temps de production de nouvelles connaissances. Là, Jean-Baptiste, il parle de temps de mise en récit de connaissances acquises. Donc, ce qui est différent. Juste pour dire que ce n'est pas du tout antagoniste. Quoi.
Radio B. Radio B.
Sandrine Anquetin, Jean-Baptiste Verrieras, merci pour toutes vos explications et vos regards sur le traitement médiatique des sens et en particulier le dérèglement climatique. Donc nous allons maintenant donner la parole à la salle. Si vous avez des questions, on va faire circuler des micros.
Est-ce que vous avez déjà été agacé de voir à la télé, la radio ou dans d'autres médias un traitement médiatique d'un fait scientifique qui a été mal fait, en fait? Est-ce que c'est déjà arrivé?
Non, moi, je suis bienveillante, en fait, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est de l'agacement, mais il y a des récurrences dans des phénomènes climatiques, par exemple les inondations, et il y a une forme de redécouverte à chaque fois. Alors, c'est bien, comme ça, tout le monde se réémerveille de tout, mais quand il s'agit de mort, c'est peut-être moins gai. Et en fait... Ce qui est assez agaçant, le mot est peut-être là, c'est qu'on a tous les éléments, la connaissance, parce que voilà, ça fait quand même quelques temps, on a tout ce qu'il faut, et ça ne passe pas. Et on continue à avoir effectivement des impacts, des inondations, voilà. Et ce qui est assez, ce qui interpelle, et c'est là où je dis que nous, on n'est pas bons communicants, c'est qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Parce que finalement, la connaissance n'arrive pas à diffuser. Et le récit qu'on donne n'est pas audible, ou en tout cas n'est pas suffisamment audible pour une mise en action des politiques publiques, des politiques comportementales. Parce que là, je ne parle pas que... Quand il y a une alerte rouge, il y a encore des gens qui vont aller chercher leur voiture et qui vont aller chercher leur gamin à l'école, par exemple, et qui vont se faire prendre par l'inondation. Voilà. Ça, c'est des choses que nous, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on a mis ça en évidence. Donc, il y a un vrai problème de traduction de cette connaissance-là, parce que ça, là, on rentre dans l'aléa climatique, donc dans l'information climatique qui est bonne. Mais après, c'est un problème de comportement et d'intégration de l'information par les comportements. Et il y a déjà des psychologues qui travaillent dessus, etc., changement de comportement. Bon. Et en fait, c'est ça qui est assez... qui interpelle, en fait. Et je peux raconter plein d'autres choses vis-à-vis des événements extrêmes, des famines qui vont arriver. Toutes ces choses, en fait, on les sait. Mais on n'arrive pas à les communiquer, ou en tout cas, on n'arrive pas à donner les mots suffisants pour la mise en action. Et c'est ça qui est agaçant. Et ce n'est pas vis-à-vis des autres, c'est peut-être plus vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Mais les journalistes, ils prennent ce qu'ils ont compris, ce que nous, on a compris, et ce qu'on a été en capacité de transmettre aussi.
On parle de la science, du journalisme, mais quand on voit aujourd'hui, entre guillemets, les informations ou les échanges qui ont lieu sur le web, on est quand même assez effaré de l'effet schtroumpf noir de désinformation ou de mauvaises informations qui sont véhiculées, qui sont... répercutés comme des balles de ping-pong de manière extrêmement rapide. Alors ça, c'est une vision un peu pessimiste, mais il y en a une autre un peu plus optimiste. On voit en même temps de plus en plus se développer dans le journalisme ce que vous appelez les vérificateurs de fake news. Est-ce que vous pensez que c'est une arme, que ça doit être développé, que ça doit être systématisé? Parce que je trouve que souvent, c'est très, très pertinent. Je voulais savoir si vous aviez un avis là-dessus.
Je pense que ça ne suffit pas. Toute personne qui consomme de l'information consomme aussi avec des affects. En fait, on a un rapport passionnel aussi à l'information. Et dans ce rapport passionnel bien sûr, nos propres convictions politiques, etc. Et on a souvent, alors en sciences cognitives, on parle de biais cognitifs, hein, c'est les neuroscientifiques vont parler de ça, on va avoir tendance à favoriser des informations qui vont dans notre sens, c'est-à-dire dans nos convictions, dans nos intuitions. Ça, c'est vrai. Et même en sciences, on essaye la méthode scientifique est faite pour, justement, aller contre soi-même, penser contre soi-même souvent, et les autres aident à penser contre soi-même. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est pas parce qu'on va, il y a plein de gens qui vous allez faire des pages de vérification de faits, etc. Des journaux vont le faire, etc. Mais il y a des personnes qui vont continuer à dire, mais moi je pense que c'est ça parce que intimement je suis persuadé que la vérité est là et pas là. Et que vous aurez beau me dire ça, mais ça, c'est parce que vous aussi, vous pensez que la vérité se tient là et là, et on n'est pas d'accord sur là où se tient la vérité. Et donc, je pense que c'est nécessaire, mais je pense que ça ne suffit pas. Et je pense que tant qu'on n'a aussi pas pris en la mesure de ce que peuvent nous apporter les neurosciences, et ce que peuvent nous apporter aussi cette considération d'un rapport passionnel à l'information, c'est le fait que toute information vient avec des affects. Ça, c'est Spinoza, c'est des philosophes qui nous le disent aussi. Donc, je veux dire, faudrait dans le monde du journalisme, des fois, peut-être aussi repenser toutes ces choses-là et peut-être accepter, finalement, peut-être ce qui est sain, c'est d'avoir aussi des journaux d'opinion avec des opinions tranchées, une façon de regarder la réalité, de l'interpréter, et puis chacun, après, de trouver sa... Ça,
sauf que les faits scientifiques ne s'interprètent pas. C'est ça la question, en fait. Je pense que sans les climato-sceptiques, les sciences du climat n'en seraient pas là où on en est aujourd'hui. Donc la controverse scientifique est essentielle pour affiner sa connaissance, parce que la controverse invite à l'argumentation et à une argumentation scientifique, documentée, etc. Donc effectivement, quand Courtillot et Allègre, donc ces deux grands climato-sceptiques français, académiciens, hein, enfin, soyons clairs, nous parlons de gens qui ont une reconnaissance scientifique, hein, des académiciens, ont commencé à s'insurger, à dire oui, mais bon, vous n'avez pas pris en compte le cycle de l'eau, le cycle solaire, tout ça. Donc ils venaient avec ça, et donc la communauté scientifique devait argumenter scientifiquement. Il dit, si, regarde mes courbes, regarde. Et c'est grâce à la controverse qu'on avance. Donc le problème des fake news que vous posez, effectivement, aujourd'hui, tout individu se croit déteneur de sa vérité. Donc de sa vérité probablement en tant que personne, mais en tant que scientifique, non. Non. C'est un fait scientifique qui se démontre. Donc voilà, donc moi, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment inviter à faire rentrer dans la démarche de nos jeunes à l'école, quoi. Les sciences, c'est pas juste prendre une photo de... je sais pas, d'une rivière qui coule, ou de, je sais pas trop quoi, ça se démontre, quoi. Il y a une démonstration, comme il y a un travail journalistique, c'est des méthodes, et c'est ces méthodes qu'il faut revendiquer, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, voilà. C'est vraiment important.
Oui, peut-être juste, et pour compléter, je pense que ce qui nous manque dans la sphère publique, à différence de la sphère scientifique, c'est justement un espace où on désirable de discussion, de discussion, de confrontation, mais de confrontation qui n'est pas, qui ne vire pas au pugilat et à l'insulte sur les réseaux sociaux, mais qui est une véritable un désir d'une élaboration collective, d'une compréhension d'un phénomène, d'une réalité humaine, ou autre. Et c'est ce désir collectif qui anime, je pense, quand même les scientifiques, même si parfois ça peut être tendu, mais et qu'il y a un espace créé pour ça, alors que dans le domaine public et dans le domaine médiatique, c'est plus délicat.
Vous venez d'évoquer les jeunes et les écoles. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il n'y a pas de culture scientifique. Demandez la différence entre une erreur et une incertitude. Vous regardez avec des yeux tout ronds.
Parce que l'observation a disparu des écoles. Parce que les TD, les TP, avant on faisait des TP, et ben il n'y a plus ou moins ça. Et moi, je donne des cours à l'université. Et la première chose que je fais, je demande aux élèves de se lever et de regarder le ciel et qu'ils me décrivent le ciel. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ben, je vous assure que... Bon, alors c'est 8h du matin, je vous l'accorde. Mais à 8h du matin, faire lever une classe de jeunes qui sont quand même en master, donc ont 21 ans quand même, hein, pour qu'ils se lèvent de leur chaise, qu'ils aillent à la fenêtre, qu'ils regardent et qu'ils me disent ce qu'ils voient, c'est la croix et la bannière. Et je leur en veux pas. Ils ne sont que le résultat d'un cycle d'éducation où ils n'ont plus appris à observer et à partager leurs observations. Parce que c'est ça, on peut regarder, là, on peut regarder les bouteilles, ben, Camille et moi, on peut décrire ces deux bouteilles complètement différemment. Et personne n'aura la vérité, ça sera juste un regard différent, une observation différente, et on confrontera nos points de vue sur l'observation que l'on donne à ces deux bouteilles pour arriver à une représentation la plus consensuelle de cette vérité qui est là devant nous sur la table. Et ça, c'est une démarche qui n'existe plus du tout dans les écoles. Et c'est dramatique. On ne fait que du théorique, parce que c'est moins cher, parce que machin, etc. Et effectivement, c'est compliqué.
Enfin, j'en ferai pas un problème générationnel. Pour moi, ma génération aussi, et même avant, je pense que c'est un problème dans l'enseignement des sciences depuis très longtemps. Pour moi, ça s'est sûrement aggravé, mais ça s'est aggravé parce que l'école ne veut pas forcément former des esprits scientifiques. Je pense qu'il n'y a pas de volonté, enfin, il y a un manque de volonté politique là-dessus, parce qu'on en revient à la question du temps aussi. Observer, c'est prendre du temps. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est sortir des classes, c'est aller regarder la nature. Et justement, l'un des problèmes, enfin, tout ce qu'on a sur le climat, sur la biodiversité, etc., on se rend compte qu'il faut aussi passer beaucoup de temps sur le terrain, observer. Et que c'est grâce à ce temps-là et ces observations qu'on découvre de nouvelles choses. Et ça, voilà, c'est un vrai enjeu de société, le climat et le temps.
Le magazine spécial dédié au moment clé de la conférence « Quelle image des sciences dans les médias ? L'exemple du changement climatique » s'est terminé. Merci pour votre écoute. Cette conférence a été enregistrée fin mars à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse. Merci à Altec, Centre de Culture Scientifique de l'Ain, et en particulier à Camille et à Guillaume. Merci à Jimmy et Valentin à la technique. Merci à nos invités Jean-Baptiste Verrieras, journaliste scientifique au magazine Epsilon, et Sandrine Anquetin, directrice de recherche CNRS à l'IGE de Grenoble, l'Institut des géosciences de l'environnement. Et merci à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien à ce projet en lien avec l'éducation aux médias et à l'information.